connais-tu la fête du slip?
Non, c'est une fête où il y a plein de slips.
Ah, si, si, je connais.
C'est quand tu danses avec des slips tournés dans la rue.
Eh bien, bonjour à tous sur Radio Primitive.
Bonjour, nous sommes en direct de la fête du slip Place de Fermat, où c'est bien le bazar, comme voilà, c'est un bon nom d'édition. Normalement, le concert était censé finir à 17h, donc on était censé faire cette émission dans un calme certain, mais...
Bah, au moins, vous êtes directement dans l'ambiance.
Voilà.
C'est l'avantage.
Et autour de cette table, il y a donc...
Sacha, moi je suis stagiaire au sein de
non,
la radio.
Non, ne dis pas, tu es deux radios primitives.
Ouais, voilà, je suis deux radios primitives. Et aujourd'hui, j'accompagne les copains et les copines pour voir un petit peu et découvrir la fête du slip.
Et Augustine également.
Et Émilie et Tom derrière la console. Ouais. Pendant une heure, on va vous proposer de rencontrer différents acteurs et actrices de la fête du slip qui se déroule donc à Orgeval. Ça a débuté hier, ça se termine ce soir. Après un spectacle. Et pour commencer, nous avons invité le très célèbre Michel 3000.
Bonjour.
Très célèbre, mais va quand même falloir se présenter peut-être pour les auditeurs de Radio Primitive qui ne vous connaissent pas.
Eh bien, alors Michel 3000, c'est mon pseudo, enfin c'est le nom de ma petite entreprise de réparation de vélos. Donc je répare des vélos sur la ville de Reims. Et cet après-midi, donc, je fais un atelier itinérant dans mon activité de réparation vélo. J'ai un vélo cargo qui me permet de me déplacer avec du matériel dans différents endroits de la ville de Reims pour soit faire des réparations ponctuelles chez des gens ou sinon participer à des événements comme aujourd'hui où je prends du matériel dans ma boîte et je me pose et puis les gens ils ramènent leur vélo et je vois ce que je peux faire.
Donc itinérance, mais il y a quand même un lieu fixe peut-être où on peut venir.
On peut me retrouver. Alors il y a un endroit où je répare des vélos et où je stocke mon matériel. Après, pour le moment, c'est pas vraiment un vrai atelier. Mais dans les mois qui viennent, normalement, place de Lisieux, avec d'autres collègues, on va ouvrir un endroit où là j'aurai vraiment une boutique atelier vélo. Mais pour le moment, c'est surtout en itinérance.
Aujourd'hui, il y a donc surtout des enfants du quartier qui t'amènent leur vélo.
Oui.
Tu es là, tu fais les réparations gracieusement pour les personnes qui te demandent cet après-midi.
Oui, c'est ça. Je suis, pour employer un gros mot, je suis prestataire de l'association Track qui organise l'événement. Donc voilà, c'est comme... voilà, donc en tout cas les gens pour qui je répare le vélo n'ont pas d'argent à me donner, sauf si je dois changer des pièces. Voilà, c'est parce que là pour le coup je les avance et mais sinon ouais donc au maximum j'essaye de faire des réglages ou genre là quand t'es arrivé, on est en train avec un enfant essayer de mettre une rustine sur une chambre à air. Parce que bon bah, la chambre à air c'était pas possible, donc ouais, on essaye de réparer plutôt que de changer pour du neuf en bricole quoi.
Et il y a une volonté, j'imagine, d'apprentissage aussi à travers ça pour que par la suite, ils puissent eux-mêmes se débrouiller avec leur propre vélo.
Ouais, alors ça, c'est pas l'objectif premier de mon intervention. Après, c'est clair que c'est super agréable de pouvoir transmettre. Souvent, on le sent assez vite quand le... Des jeunes, mais quand ils déposent le vélo, bon, est-ce qu'il reste et qu'il regarde ou est-ce qu'il le dépose et puis il retourne voir ses potes? Bon, s'il reste et qu'il regarde, bon bah voilà, je lui demande tiens tu veux m'aider, donne-moi le tournevis, non ça c'est une clé, enfin,
voilà. La fameuse
des
clé 12
trucs comme ça. Ben, oui.
Et le vélo cargo du coup dont on parlait un petit peu plus tôt avec lequel bon on va se tutoyer hein,
okay.
Avec lequel tu fais tes itinérances, c'est un vélo j'imagine que t'as conçu toi-même qui est exprès pensé pour pouvoir naviguer avec.
Oui, tout à fait. Bah, c'est un vélo qui est conçu pour transporter de la charge. Donc les vélos cargo, on en voit de plus en plus. Oui. Maintenant, le plus souvent, c'est pour un usage domestique. En tout cas, des gens qui s'en servent pour aller faire des courses ou déposer leurs enfants à l'école. Donc, ils s'en servent dans leur vie de tous les jours. Moi, du coup, j'ai un usage très utilitaire pour transporter du matériel. Alors, je ne l'ai pas conçu, mais on a travaillé dessus avec une boîte à Toulouse qui
D'accord.
s'appelle Botch Cargo Bike. Eux, en fait, ils fabriquent les vélos dans le sens où ils partent d'une base d'un vieux VTT en acier des années 90. Et puis donc ils les font sur mesure, parce que du coup ils prennent le VTT selon la taille de la personne qui va l'utiliser après. Mm-hmm. Et puis ils le découpent et ils le soudent à une nacelle qu'ils conçoivent également. Et puis les équipements, le type de roue, le type de... Donc j'ai un moteur, comme j'ai pas mal de poids à transporter, j'ai un moteur de tout ça, et réfléchi ensemble. Donc ils font vraiment des vélos sur mesure, à la carte, selon les besoins, quoi. Et moi j'ai trouvé la démarche vraiment super... super chouette, c'est pas plus cher qu'un vélo standard et de série.
Donc c'est en fonction de la taille, c'est ça, enfin notamment qui sont réalisés ces vélos, c'est ça. Donc pas la possibilité de déléguer, de laisser quelqu'un d'autre partir avec le vélo cargo, j'imagine.
Oh bah si. Bah, comme tout vélo, on peut prêter son vélo. En fait, c'est les mêmes contraintes qu'un vélo normal au niveau de la taille. En fait, c'est pas parce que le vélo il est trop grand que tu peux pas en faire, c'est pas parce qu'il est trop petit que tu peux pas en faire. Juste là, c'est le petit
c'est un
plus
peu plus galère,
quoi. Pour moi, j'ai une taille assez standard, donc j'aurais pu prendre un vélo de série, mais eux, voilà, ils poussent le truc plus loin, quoi. Ouais.
Et donc, qu'il vente, qu'il neige, tu te déplaces exclusivement à vélo, alors.
Ah oui, parce que j'ai pas de voiture.
Ok.
Ouais.
Ok. Ça fait des belles jambes, alors.
Ah, ça, c'est pas à moi de le dire.
Ça entretient.
Eh bien, merci beaucoup. Donc,
merci à vous.
On peut te retrouver donc pour les prochaines éditions de la Fête du Slip, si
tout
j'ai bien
fait.
Compris.
Oui.
Notamment, alors la prochaine, je sais pas si tu as la date
en tête.
C'est
mercredi.
C'est mercredi et ça se passe.
Je crois que c'est à Croix-Rouge.
Donc là, va falloir pédaler très fort pour aller du côté de Croix-Rouge.
Moi, je triche, j'ai un moteur.
Ouais. Mais bon, quand même, malgré tout, avec le poids, on sait à peu près c'est quel poids du coup.
Là, je transporte une centaine de kilos à peu près.
Ah, mais il faut un sacré moteur quand même, malgré tout.
Ouais, donc sans moteur c'était un peu compliqué.
Oui. Eh ben merci beaucoup.
Merci à vous. Bon après-midi.
Oh amour mon père et je ne sais pas comment. Oh amour ma mère et tous ses sentiments. Oh amour mon frère et ma sœur évidemment. Oh amour serait-ce un jeu d'enfant à crier tout le temps. Amour de longue date qui s'étend, qui s'étend. Oh amour avec un grand A, c'est long, c'est long, c'est long. Et amour, mon amulette du coup, tour excellent. Amour, serait-ce un jeu d'enfant à crier tout le temps. Oh amour mon père et je ne sais pas comment. Oh amour ma mère et tous ses sentiments. Oh amour mon frère et ma sœur évidemment. Oh amour serait-ce un jeu d'enfant à crier. Oh amour de longue date qui s'étend, qui s'étend. Oh amour avec un grand A, c'est long, c'est long, c'est long. Et amour mon amulette du coup t'es excellent. Amour serait-ce un jeu d'enfant à crier. Oh amour la première fois me ressent plus jeune assez. Pour la dernière fois. Oh l'amour de ce doux, c'est pas si qu'il se fallait parfois. Et amour serait un jeu d'enfant à crier. Oh, amour mon père et je ne sais pas comment. Oh, amour ma mère et tous ses sentiments. Oh, amour mon frère et ma sœur évidemment. Oh, amour serait un jeu d'enfant à crier tout le temps.
Radio Primitive.
Et nous revoilà donc en direct de la fête du slip à place de Fermat. Alors là tout de suite on va recevoir Robert et Savi qui vont nous parler de la scintigraphie. Non, la sérigraphie. Voilà, rien à voir. Qu'est-ce que c'est que la sérigraphie?
Alors la sérigraphie, l'étymologie du mot, série vient du latin sericum qui veut dire soie, et graphie vient du grec graphine qui veut dire écrire. Donc c'est écrire avec de la soie, c'est une technique d'impression qui a été inventée en Chine, qui s'est perfectionnée au Japon, et qui est arrivée en France, notamment à Lyon, qui était la grande capitale française de la soie, en 1850. Donc c'est une technique qui fonctionne avec un cadre, avec de la soie tendue. Alors aujourd'hui, on n'utilise plus de la soie, c'est du tissu synthétique. Et cette soie-là, on va développer un motif qui va nous servir à imprimer sur t-shirt, sur papier.
D'accord. Et donc c'est une technique qui Il y a une couleur par cadre, c'est ça ?
Effectivement, oui. C'est une technique qui est particulière où pour chaque couleur, on doit développer un nouveau cadre et on imprime couleur par couleur. D'où la singularité de la sérigraphie. On a souvent des petits décalages entre les couleurs qui fait tout le charme de la technique.
D'accord. Ça.
Et moi, j'aime bien le définir comme un mix entre de la photo argentique pour les plus anciens, qui voient les pellicules argentiques qu'on développe à la lumière, etc. Et un pochoir. Je pense que tout le monde a déjà fait un pochoir. Là, c'est un mix des deux, c'est-à-dire qu'on va, on va insoler le motif avec un réactif à base d'argent, comme dans la photo argentique, et qui vont, ça va laisser du vide, et là, l'encre va traverser le tissu là où il y a du vide. Tout ça n'est pas très radiophonique, mais... C'est, voilà.
Tout à fait.
Et donc on travaille couleur par couleur et sur plein de supports différents. Ça peut être du t-shirt, du papier ou même du verre, du plastique. Ouais. Et c'est avant tout une technique industrielle au départ. Mais après, ça a été vachement mis en avant par plein d'artistes qui se sont réappropriés, genre Andy Warhol. Okay. Je pense que tout le monde connaît ses portraits, c'est de la sérigraphie par exemple.
Non, donc effectivement, c'est une technique qui coûte peu cher et on peut développer en série, donc faire un nombre d'exemplaires assez conséquent en peu de temps. Donc il y a notamment, effectivement, aux États-Unis, c'est le pop art qui a développé la sérigraphie, mais en France, c'est via les mouvements de lutte de mai 68 qu'on a commencé à développer la sérigraphie d'un point de vue artistique.
D'accord. Et du coup, là, je vois encore que le stand est complet. Vous avez eu un grand succès cet après-midi.
Oui, c'est très ludique. Et les enfants étaient un peu merveilleux. Où ils passent l'encre, ils soulèvent le cadre et voient ensuite le motif révélé. Oui, quelque chose de très merveilleux pour les enfants.
Et je vois que vous avez un bel atelier juste derrière vous. Une belle caravane peinte. C'est votre atelier, alors ?
Effectivement, avec Savinien et d'autres amis de la Trac, depuis quelques mois, on s'amuse à restaurer une vieille caravane qu'on a montée en atelier de sérigraphie.
Excellent.
Moi, j'avais une petite question par rapport au fait qu'on n'utilise plus aujourd'hui de la soie. Pourquoi ? C'est une question de coût
c'est une question de coût. Ouais.
D'accord, c'est quelque chose du coup qui est devenu trop cher.
Effectivement.
Donc on peut pas l'utiliser.
C'est quand même. Des cadres sont quand même assez fragiles et en soie, c'était encore pire. Okay. Là, c'est en nylon. Ça permet. Parce qu'on utilise plein de produits pour laver, qui sont extrêmement acides et un peu dégueux. Et du coup, en fait, ça, c'est quand même. Depuis la Seconde Guerre mondiale, c'est plutôt du nylon. Je pense que certains artistes continuent à travailler avec de la soie, mais c'est coûteux. Et voilà.
Pour un rendu qui est le même, finalement.
Le même, ouais.
Et donc, par rapport au dessin, c'est tout type de dessin qu'on peut réaliser avec la sérigraphie ?
Ouais, du moment que tu arrives à dissocier tes couleurs.
D'accord.
Par exemple, si tu fais un dessin en quatre couleurs, tu vas devoir dissocier, faire un calque avec que ton noir, admettons, un calque avec que ton rouge, et voilà, tu vas faire ça sur plusieurs jours avec les temps de séchage, etc.
Et donc comment ça, enfin peut-être que vous l'avez déjà dit, mais j'ai peut-être le cerveau qui est parti ailleurs à ce moment-là, mais le calque, comment on le réalise ? C'est pas un procédé avec des UV et ce genre de choses ?
Si, effectivement. Alors, on a notre cadre avec notre tissu tendu. On va lui appliquer ce qu'on appelle une émulsion, qui est un produit chimique. Et ce produit a la particularité de se figer quand il est exposé aux UV. Donc, on travaille dans une pièce sans UV, où on étale l'ensemble de notre produit sur l'ensemble du cadre. Et ensuite, on imprime ce qu'on appelle un typon. C'est une feuille transparente avec notre visuel au noir. Donc, le noir, forcément, va bloquer la lumière. Ce typon-là, on va le poser sur le cadre et on va ensuite exposer aux UV. Donc forcément, la lumière va passer sur la partie transparente, mais ne va rester, ne va pas passer par rapport au noir. Donc forcément, le produit ne sera pas exposé. Donc quand on va rincer à l'eau, ça va révéler le pochoir.
Il y a beaucoup de vent, comme vous pouvez très certainement l'entendre. Il y a tout qui vient de tomber.
C'est un procédé qui est long, comme...
Si ça se passe bien, mais en fait ça se passe jamais bien. Ça peut être
fastidieux au départ, comment trouver les bons paramètres, la hauteur de la lampe par rapport au cadre,
À chaque fois, tu veux changer de marque de produit, tu vas pas avoir le même temps d'installation. D'accord. Mais c'est un truc, c'est pour, faut être vraiment patient. Et parfois, tu balances tout et t'arrêtes pendant 6 mois.
Et ce qui est rigolo, mais, c'est que chaque sérigraphe a sa technique, a ses astuces et travaille différemment. Et c'est intéressant de discuter entre sérigraphes et de voir qu'on travaille différemment sur la manière d'installer, la manière de passer l'encre. Et c'est ça aussi qui est riche et passionnant dans cette technique.
Du coup, chaque œuvre ne se ressemble pas en fait. Elles sont
je sais pas si on peut vraiment parler d'œuvre.
Ouais.
Elles sont toutes légèrement différentes, a priori, ouais.
Et comment vous êtes devenu sérigraphe, finalement ?
Je sais pas, moi je me définis pas comme sérigraphe, c'est une passion.
En tout cas, comment vous savez faire ça ? Parce que je serais incapable de faire ça.
Ah, moi c'est autodidacte.
Après, il y avait une découverte, j'imagine, qui s'est faite un jour, et puis...
Ouais, moi j'ai une formation de graphiste, et c'est vrai qu'aujourd'hui le graphisme passe beaucoup par le numérique, et je pense par marre du tout numérique.
D'accord.
J'avais envie de retourner au fait main, à l'expérimentation, à essayer, et c'est dans ma salle de bain où j'ai commencé à expérimenter, à essayer, et au fur et à mesure ça m'a plu, j'ai envie de continuer. Cette aventure-là, quoi. Et je trouve que c'est aussi quelque chose qui est merveilleux dans cette notion de, pour les enfants. Et je trouve que faire ça en atelier, c'est chouette, c'était un peu magique. Et ça a développé les ateliers, d'où aussi la caravane. Je trouve qu'il y a un côté magique et merveilleux pour les enfants.
Côté, ouais, vraiment. Moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est la puissance, l'intensité des encres. Qui sont vraiment opaques, les couleurs sont vraiment bien plus belles qu'une quadrichromie ou un truc qu'on peut trouver n'importe où. T'as vraiment une puissance, une opacité de l'encre et qui est vraiment chaleureux, super. Et t'as plein d'étapes un petit peu magiques. Tu vois, à la fin de ton insolation aux UV, tu vas le passer avec une douchette à l'eau et là tu vois doucement le motif apparaître. Et ça, c'est toujours... tu sais jamais si ça va vraiment marcher ou pas. Et il y a plein de petites étapes comme ça où t'as ton premier tirage, quand tu vas faire ta première affiche, là, tu sais pas exactement si ça va vraiment traverser, pas traverser. Et c'est toujours un côté un peu une surprise de... Voilà ce qui me plaît dans la sérigraphie, en tout cas.
Ah, puis pour revenir sur les encres, il existe des encres fluo, il existe des encres argentées, pailletées, dorées. Il faut aussi le charme, cette diversité de couleurs proposées qui diffère un peu de la quadrille classique des imprimantes numériques actuelles.
Un large panel de colorimétrie, tout ça, c'est top.
Bah, du coup, on va pouvoir vous retrouver aux prochaines éditions, j'imagine, de la fête du slip. Et puis, est-ce qu'il y a un autre endroit également, ou je sais pas, peut-être des réseaux sociaux sur lesquels...
Non, pour l'instant, c'est réseaux. Vraiment le début du projet, mais...
Mais en tout cas, on suivra ça de très près et avec grand plaisir. Eh bien, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci à vous.
On faisait des lance-pierres avec des sacs. On mettait des bouteilles sur les roues de vélo. J'ai une bonne famille, mais j'envie l'autre. J'ai trop peur de vivre, alors je fais plus d'années. On écrivait sur un arbre comme si c'est le nôtre. On s'imaginait sur des vagues, sur un grand navire. Avant y'avait des taches de couleur sur mon tablier. Maintenant y'a que des taches de sombre à cause de la cigarette. Je rentrais des cours avec des cartes, mais c'était pas les miennes. Je les avais volées à mes potes, mais je faisais semblant. Je descendrai jamais, c'est marrant. Je suis trop bien dans ma branche. Je sais qu'ils m'attendent tous en bas. Je descends pas, c'est sûr qu'ils vont me faire du mal. Il faut que j'aille repeindre la grange, car je déteste sa couleur. Oh, moi je suis soleil, alors j'ai rien à faire ici. Je m'abîme trop sur moi, ils vont faire un film. Si je continue, c'est sûr que je vais pas réussir. L'aventure du prince, je la raconterai à mon fils. À la base, moi je suis soleil, j'ai des taches de couleur sur mes mains. Je dessine des horreurs à la craie. Alors demain, j'espère qu'il va pas pleuvoir. Papa, apprends-moi à refermer la lacets. Je veux recommencer ma Yves, j'ai trop peur de décevoir. Donne-moi la main, j'ai trop peur d'être sur la scène. Je suis trop naïf, on m'a promis que je serai roi. Je me fais du mal, mais j'arrive à prendre soin d'elle. Toi je te déteste, je l'imite bien, je le dis comme elle. Je regarde mon reflet, je me bats contre moi-même. Alors qu'à la base, moi je suis soleil, prince de la ville. Soleil, j'm'alcoolise sur un bon pour insulter les alcooliques qui font la même chose que moi. Je sais que ça t'a mis en colère. La dernière fois je t'ai fait croire que j'ai battu un ours polaire avec mes mains. Enfin j'y crois quand j'ai de l'herbe. Moi je suis soleil. Moi je veux pleurer mais j'ai trop peur qu'on me voit. Alors je dis que c'est le pollen. Alors moi je suis soleil. Suis le soleil. Princesse. Moi je suis soleil.
Waouh, Radio Primitive.
Et en effet, hein, toujours à l'écoute de Radio Primitive et toujours en direct de la fête du slip dans le quartier Orgeval. On est place de Fermat. Et donc, on a le plaisir d'accueillir un petit peu tout ce qui se passe, toutes les activités qui sont organisées ici avec Sacha qui est à mes côtés toujours.
Et donc là, surprise.
On a une surprise pour vous. On vous a préparé quelque chose avec deux jeunes qui ont décidé de nous faire une petite chanson, si j'ai bien compris, accompagnée donc de Philippe à la guitare.
Voilà, on a rencontré deux chanteurs après le concert, donc, et ils vont nous interpréter. Et vous allez nous dire la chanson que vous allez nous interpréter. Comment elle s'appelle ? Ouais, on va y aller.
Allez, c'est parti.
Petrouchka, ne pleure pas, entre vite dans la ronde, fais danser tes mates blondes, ton petit chat reviendra. Il s'est fait tout, il s'est fait originelle dans les chemises en dentelle de ton grand-papa. Dans deux chats, la colombe par-dessus le toit, dans un coin plein de ton joli Petrouchka. Dans deux chats, la colombe par-dessus le toit, dans un coin plein de ton joli Petrouchka.
Et Beck, quelle magnifique chanson. Bravo à vous, félicitations. Vous avez mis combien de temps pour apprendre ça?
Je crois que c'était depuis le mars.
Depuis
mars.
Oh bah ça a été rapide.
Depuis le mars.
Depuis le mois de mars, vous avez appris cette chanson à l'école. Et bah, félicitations.
Bravo.
C'est la maîtresse ou le maître qui sera content?
C'est clair.
Vous lui direz?
C'est une maîtresse.
La maîtresse
en CM2.
Ok.
Vous êtes dans quelle école?
Galliani.
Dans l'école Galliani. Eh bien, ils seront heureux de vous entendre à la radio sur Radio Primitive. Merci à vous, en tout cas.
Merci beaucoup.
On garde Philippe.
On va garder, en effet, Philippe pour lui poser quelques petites questions. Toi, si Philippe veut bien rester sur l'antenne de Radio Primitive. Alors, il faut juste, en effet, avec la guitare, voilà. C'est pas très, très pratique,
ça y est,
du coup.
Ça va, je suis là.
C'est tout bon. Alors, bon, on a évoqué donc le prénom, Philippe.
Mm-hmm.
Mais alors, il me semble que c'est un groupe également. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du groupe et puis de la personne qui vient de nous rejoindre également?
Voilà, donc bah, la personne qui vient de nous rejoindre, elle n'est plus à la petite école, elle ne va pas nous chanter Petrouchka. elle s'appelle Ferhat, voilà, c'est le joueur de Saz, du groupe auquel j'appartiens, s'appelle les Araucan Chiyé, qui veut dire les enfants de la montagne.
Alors, j'ai pas osé dire le nom, parce que j'avais peur de mal le prononcer.
Ouais, peut-être que j'ai un accent un peu à couper au couteau, c'est possible. Tu le prononceras mieux que moi, je pense. Vas-y.
Non, je le prononcerai pas.
Ok, ça, d'accord.
Araucan Chiyé.
Voilà. Donc, on est une formation de 4 ou 5 musiciens, disons 5 quand on est au complet. Et on a commencé depuis peu à traduire des chansons kurdes en français et à les interpréter. Voilà. Donc, on est ravis de venir les interpréter aujourd'hui à Orgeval. Demain, on sera à Lille pour Courrières pour le nouvel an kurde.
Kurde. Un beau nom, je crois.
Voilà. Ouais.
Ouais, pour le nouvel an kurde, pour le névrose.
Pour le névrose, voilà, qu'on appelle qui est le nouvel an kurde. Voilà.
D'accord. Et ça fait combien de temps du coup que cette formation existe?
On avait commencé il y a quelques temps, mais en chantant également avec une chanteuse qui chantait la partie kurde et la partie française. Puis on avait un petit peu laissé de côté les répétitions. Et là, on reprend exclusivement avec les textes en français.
Et donc, vous êtes deux des membres du groupe. On peut parler de Léa, il me semble, qu'on a pu entendre tout à l'heure, qui chantait.
Oui, c'est bien qu'elle parle d'elle-même. Si
c'est,
on
vrai,
la retrouve,
c'est vrai, c'est vrai. Elle ne sait pas où elle est partie.
Oui. Bah, Léa était
elle est là.
Elle est là, elle arrive. Voilà. Donc Léa va se présenter toute seule. Tiens, tu viens au micro. Et donc on s'est présenté. C'est raté moi, maintenant c'est à toi.
Bonjour, moi c'est Léa. Moi je fais le chant dans le groupe Les Araucanes et le ukulélé pour donner une petite touche exotique. Un ukulélé ténor 8 cordes habituellement. Là c'était seulement 4 cordes. Et c'était ténor aussi. Voilà. Les détails qui n'intéressent personne.
C'est très précis. Mais
et...
c'est bien.
Et voilà, moi je suis du 100% français hélas, mais je suis très contente de pouvoir chanter les versions françaises des chansons kurdes pour que tous les francophones les comprennent.
Alors 100% français, j'ai quand même cru entendre un petit Bella Ciao.
Oui, bon d'accord, j'ai des origines très lointaines, italiennes, mais mon accent est déplorable en italien, c'est pour ça que je voulais pas le dire, mais vous m'avez piégée.
Zut. Après, ceci dit, les auditeurs ont pu entendre au début de notre émission, puisque vous étiez encore en train de faire quelques chansons avec les enfants qui ont participé. Donc on a rapidement parlé en fait de votre groupe, votre histoire également. Est-ce que vous avez d'autres dates par la suite? On a parlé de celle de demain près de Lille. Là pour le coup je pense que les auditeurs ça risque d'être un petit peu compliqué pour eux de pouvoir vous retrouver, mais les prochaines fêtes du slip peut-être on vous retrouvera.
Oui tout à fait, le 25 avril au quartier Wilson nous ferons une deuxième fête du slip en espérant que ce soit aussi sympathique qu'aujourd'hui. Et des fois on est un peu demandé pour les mariages, alors là on en a peut-être un en avril mais c'est privé.
D'accord.
Oui, mariage kurde, franco-kurde même. Ça, c'est très rare, faut le souligner.
Super. Eh bien, merci à vous. Est-ce que tu as d'autres questions, Justine?
Eh bien, écoute, je pense qu'on est plutôt bon hein, vis-à-vis des questions. Oui, les concerts à venir, sur la présentation, ouais. Sur l'histoire, on a fait le tour. Est-ce que vous, il y avait des choses peut-être que vous aviez envie de mettre
partager.
En avant par rapport à votre groupe?
Eh bien, que c'est une très très belle expérience, à la fois militante, à la fois amicale et musicale, et que tous les chants français qu'on est en train de vous faire part, on va essayer de les publier en recueil pour faire une espèce de petite anthologie de chants kurdes traduits en français. Et c'est surtout Philippe qui dirige cet ouvrage.
Alors peut-être qu'il dit non avec la tête.
Il va rajouter quelques petites précisions, parce que c'est quand même lui qui œuvre jour et nuit là-dessus. Hein.
D'abord, je dirige rien du tout, mais ce sont nos traductions. Évidemment, je ne parle pas kurde, donc à partir de traductions littérales, on essaie de remettre en forme ces textes. Parce que, bon, à force d'aller militer, manifester, d'aller aux fêtes culturelles kurdes, on entendait la musique qui a une place pour eux prépondérante, puisqu'elle est porteuse d'idées, de révolte, de dénonciation. Elle raconte une histoire, elle raconte leur histoire. Et nous, avec Léa, on ne comprenait absolument rien à ces textes. On s'est dit, bon, c'est dommage. Donc on dit, de quoi ça parle? Ça, c'est Beritane, c'est une jeune fille de 21 ans qui était guérillera, qui s'est jetée d'une falaise pour ne pas être prisonnière. Bon, je trouve ça intéressant. Donc on commence à les mettre sur les mélodies, à les chanter. Et Ferhat, par exemple, nous dit, mais je connais personne qui fait ça. Voilà, on s'est dit, bon, bah.
Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vraiment un précurseur. Un précurseur dans le domaine, ça n'a jamais été fait jusqu'alors. Il y a déjà eu des semblants de traduction, mais ça a eu le temps d'une chanson. Et là, c'est vraiment créer un répertoire vraiment kurde traduit en français, en y intégrant des instruments orientaux du Moyen-Orient, des instruments plus occidentaux. Et voilà, et on arrive à sortir quelque chose de plutôt sympa.
Ouais. D'ailleurs, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre instrument?
Oui, bien sûr.
Parce qu'il étonne.
Alors, c'est un instrument à cordes pincées, ça s'appelle un saz, S-A-Z. C'est l'instrument le plus populaire du Moyen-Orient.
Okay.
Essentiellement en Iran, en Turquie, en Irak, en Syrie. Voilà, c'est vraiment l'instrument populaire par excellence. Et celui avec lequel on fait tout et n'importe quoi.
Ouais,
et la preuve encore aujourd'hui,
ouais.
Où on arrive à occidentaliser certaines choses avec le saz.
Ah, c'est excellent, c'est une belle expérience.
Et donc ce recueil, du coup, on a envie de savoir, on en est où là sur le travail? Est-ce que c'est bientôt la fin? Est-ce que...
Bah là, oui, peut-être, non. Ça peut être la fin du tome 1, mais peut-être qu'il y aura un tome 2. Pour l'instant, on a traduit, il y a 33 chansons qui sont traduites. Donc le recueil, on est en train de relire. Et puis, Il y a une préface, il y a beaucoup de notes en bas de page pour donner des précisions, des explications.
Oui, c'est ce que j'avais demandé. Est-ce que ce sera possible de les jouer, du coup
voilà. Oui, c'est possible de les jouer. Ouais,
qui maîtrisent, bien sûr.
Puisque c'est ce qu'on fait. On les prendra une par une et on les interprète. Celles qu'on a commencé ici sont nos traductions. Mm-hmm. Et voilà. Donc,
On va pouvoir le retrouver où?
Bah, quand il sera publié,
en ligne, voilà, c'est ça.
C'est un vrai
éditeur. Génial. Voilà, ouais.
Oui, parce qu'on a déjà une expérience de traduction avec la sœur de Ferhat qui n'est pas là, qui nous a fait faux bond parce que c'est elle qui devait jouer du Caron, mais elle a eu un empêchement, donc c'est pour ça qu'on a recruté sur place.
Qui devait jouer
et
du
on a le Caron, la percu.
D'accord,
la
ok.
Et donc Evin, qui est kurde. Avec d'autres amis, il y a Sibel aussi et Jean. À quatre, on a traduit le témoignage d'un monsieur qui s'appelle Mehmet Dar, qui a passé 34 ans dans une prison terrible en Turquie, dans plusieurs prisons, pardon. Et donc, il a écrit un livre qui s'appelle « Mourir, le sourire aux lèvres » et qui est édité chez Sileps et qu'on a traduit. Voilà. Donc, après cette expérience de traduction et de publication, on se dit que ce recueil de chants, on espère qu'il pourra intéresser les éditeurs un jour. Voilà, prochain.
Et ben en tout cas, le message est passé.
Super. Et ben merci à vous.
Merci
d'être venu nous avoir reçu.
Je crois que Émilie voulait qu'on vous fasse une petite chanson pour la fin.
Super.
Alors c'est une excellente idée.
Je vais juste mettre le casque de mon voisin pour pas chanter faux, puis il va me faire les accords à la guitare, peut-être juste pour pas que je fasse n'importe quoi. Sinon, je vais pas être dans la tonalité. Donc je propose une.
Ça va aller.
Sauf si on a le temps de sortir le sage, non, comme vous voulez.
Ah bah tout à fait, ça peut être possible.
On peut faire
avec grand plaisir.
Les... comme vous voulez.
C'est laquelle?
Allez, on fait nos montagnes. Alors c'est une très belle chanson qui parle du lieu de lutte par excellence des Kurdes. Hein. C'est là que se trame les scénarios, les stratégies militaires, et puis c'est là aussi qu'il y a les combats, hein, loin des villages, parfois il y a des exceptions. Je vais pas m'embarquer dans des détails que je ne maîtrise pas. Et ici, les montagnes, alors souvent elles sont dépeintes de manière très très dithyrambique, puisque c'est la beauté du paysage kurde, mais là c'est assez rare, c'est les montagnes sous leur versant négatif, c'est la solitude. Voilà, et ben je propose qu'on laisse la musique vous parler.
Donc là, on va directement attaquer avec la chanson, comme ça, au moins, on va essayer de l'entendre.
Voilà, on croise les doigts pour que ça ne coupe pas, voilà. Fais pas d'intro. Il a quand même fait une intro. Tout est devenu blanc. Nos montagnes sont couvertes de
Ben merci beaucoup.
Mais de rien, avec plaisir.
Alors du coup, est-ce qu'on peut rappeler le nom de votre groupe ?
Les Arokan Chiyé, qui se traduit littéralement par les enfants de la montagne.
Et donc on a bien compris à travers la chanson de toute façon.
Voilà, vous pouvez nous suivre sur Instagram et sur Facebook, mais surtout sur Instagram. Mm. Donc ZAROKEN CCDIYE. Si vous ne mettez pas les accents que je ne vous ai pas donnés, ça ira très bien, je pense.
Ok, et eh ben c'est noté. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Eh bien, le soleil a rejoint la bonne humeur à la fête du slip. Et nous, à Radio Primitive, on reçoit tout de suite notre nouvel invité, Philippe. Donc, Philippe Hiroux, qui a le plus beau stand, le plus grand chapiteau de la fête du slip. Et à l'intérieur, on y retrouve quoi ? Eh bien, une belle table de massage. Alors, Philippe, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais ?
Alors, je propose des séances de massage thaïlandais, donc qui est un massage qui est ni musculaire ni articulaire, puisque dans l'image du massage qu'on a souvent, c'est on va se faire masser, on va mettre de l'huile et tout. Là, c'est un massage énergétique, c'est un massage par des points de pression, ça peut rejoindre l'idée de l'acupression. Et ça suit toute une carte d'un réseau énergétique qui est justement très proche de toutes les cartes qu'on trouve dans les médecines orientales, asiatiques, c'est-à-dire la carte des méridiens de la médecine chinoise. Là, ça s'appelle les sen et tout, mais c'est aussi dans le yoga, les nadis. C'est tout ce réseau énergétique qu'on a dans le corps. Et puis là, par le massage, je cherche à activer et à réguler en partant d'un massage qui part de la voûte plantaire jusqu'à la pointe des cheveux. Voilà, puis là, je fais des séances de 20-25 minutes dans mon petit stand et puis bah, les gens acceptent de venir faire l'expérience.
Voilà. Alors, tu nous expliquais que ça se fait également habillé parce qu'il n'y a pas besoin de
d'huile. Non, voilà, etc. C'est un massage là, que je propose habillé. Alors, c'est sûr, tout à l'heure, j'avais une dame qui avait une très grosse polaire, c'est moins facile quand même, ça se pratique habillé puisque c'est pas, ça agit pas sur le musculaire, c'est vraiment suivre toute une carte d'un réseau qu'on a à l'intérieur de nous, hein, qui est, quand je dis la carte des méridiens, c'est les acupuncteurs vont aller sur ces points-là, sauf que moi, au lieu de faire des points, bah, je fais des lignes, je suis toutes les lignes de ces cartes et en pression, ça fait un petit drainage lymphatique dans l'esprit.
Et comment ça s'apprend, cette carte, justement?
Eh bien, ça s'apprend... Alors, il faut voir qu'en Thaïlande, le massage... Moi, je n'y ai pas été, mais j'ai mon professeur qui m'a initié, lui, il y a été. C'est très culturel, le massage thaï. C'est les gens dans les parcs qui se massent entre eux. C'est un massage qui est très intuitif. Alors, c'est sûr que si on va dans un salon de massage en Thaïlande, se faire un massage plus lourd, j'ai vu des images où c'est un petit marteau en bois avec un maillet pour se faire masser la colonne vertébrale.
Bon,
là, faut y aller, quoi. Mais sinon, dans le massage de base, c'est un massage très intuitif. Donc, la carte, on l'apprend. Bon, moi, je l'ai appris en théorie, mais après, c'est par la pratique aussi. Qu'on va voir, qu'on va suivre ces lignes-là et qu'on va les sentir. Parce qu'une fois qu'on a appris la carte, en théorie, sur un petit dessin et tout ça, après on s'aperçoit qu'en posant ses doigts à ces endroits-là, bah, au-delà du musculaire, il y a quelque chose d'autre qui se passe dans la respiration. Après, il y a de la technique, hein, c'est une technique comme une autre. Là, quand je masse, je suis en cohérence cardiaque. C'est-à-dire que j'expire sur 5 temps, j'inspire sur 5 temps, j'expire sur 5 temps, j'inspire sur 5 temps. Donc c'est la cohérence cardiaque. Alors j'avoue, quand je fais des après-midi massages, je ne suis pas à la seconde toujours en train de le faire, mais régulièrement je reviens à mon comptage pour voir si je suis sur mon rythme, si je suis sur tout ça. Et que c'est cette régularité de respiration, quelque part j'essaye de communiquer à la personne en face. Et souvent je m'aperçois que les gens que je masse, ils finissent par avoir mon rythme respiratoire. C'est-à-dire qu'ils sont en train de respirer. Et 5-5, c'est bah, la cohérence cardiaque, c'est vraiment notre rythme cardiaque et respiratoire normalement de base. Quand on est bien apaisé, c'est ce rythme-là. Donc, voilà.
Est-ce qu'on ressent une différence entre chacune des personnes qui se font masser? Par exemple, il y en a qui auraient plus besoin.
Oui, c'est évident que moi je ressens jamais pourquoi, qui, que, quoi, comment, mais les tensions, les points. Ça m'est arrivé régulièrement de faire des gens par exemple qui avaient des torticolis, des choses comme ça, et quand j'arrive sur les points, j'ai l'impression des fois de faire piquer de terre, c'est-à-dire je décharge en énergie ce point qui est inflammé, donc qui est contracté, où il y a beaucoup trop d'énergie, etc. Donc à chaque fois, ouais, c'est différent. Après, il y a un peu un des points communs, souvent sur les gens, surtout pour qui c'est la première fois, il y a eu une paire de personnes qui sont reparties, on dit waouh, ils étaient sur une autre planète, quoi. C'est un petit voyage intérieur, c'est des choses dont on n'a pas l'habitude.
Donc c'est tout nouveau.
Oui, de s'apaiser, d'être tranquille, et puis à un moment de repartir, de se dire, tiens, il s'est passé quelque chose, mais j'ai du mal à définir ce qui s'est passé pour eux, quoi.
Et puis c'est plutôt original en fait d'avoir un stand de massage en plein milieu de la fête du slip avec tous les enfants qu'on peut entendre peut-être en arrière-plan. C'est peut-être pas forcément l'endroit où on imagine pouvoir avoir un moment de détente.
Alors c'est sûr que c'est différent de le faire là dans mon stand que quand je reçois ou quand je me déplace chez des personnes où là il y a un cadre vraiment qu'on va faire. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est que alors souvent j'ai des petits sacs en satin avec des graines dedans que je pose sur les yeux des gens pour qu'ils se mettent vraiment qu'ils se coupent du sens de la lumière. C'est parce que même les yeux fermés on perçoit la lumière, qu'on se coupe vraiment de ce sens-là. Et puis après leur dire mais on entend des choses autour, mais ça ne nous importe pas en yoga parce que moi, je suis praticien de yoga déjà au départ, puis j'enseigne le yoga aussi. Et puis entre le massage thaï et le yoga, il y a vraiment des textes en massage thaï qui disent le massage thaï, c'est se faire faire du yoga par quelqu'un d'autre. Et il y a vraiment beaucoup de points communs. Et en yoga, on appelle ça le pratyahara. Le pratyahara, c'est cette capacité à se détacher de ses sens. C'est-à-dire, je vois, j'entends, je sens, mais rien ne me descend de ce que je suis en train de faire. Donc, c'est pas quelque chose qu'on décrète, mais c'est quelque chose qu'on acquiert par la pratique. Et souvent, les gens que je masse, au bout d'un moment, il peut se passer, ça peut s'écrouler autour d'eux. Ils sont dans ce qui sont en train de se passer et tout ça. Puis après, souvent, j'ai des personnes qui à la fin de massage, me disent que ils dormaient pas, mais ils étaient dans un état de sommeil éveillé, comme s'ils étaient en train de rêver de manière éveillée. Donc ils ont une conscience de tout ce qui se passe autour, mais sans que ça impacte quoi que ce soit. Donc, un peu ce qu'on cherche souvent dans le yoga, c'est de rester dans ce centrage.
C'est une belle expérience à tester. Alors,
tu l'as testé toi, Sacha ?
Non, mais je pense que je vais prendre prochainement rendez-vous. D'ailleurs, on peut vous joindre
par téléphone ou par mail, et puis effectivement, voir, prendre rendez-vous. Je me déplace ou je reçois. Je fais ça aussi avec mon petit stand qui se déplace aussi.
Donc le nom de c'est Dévoiles à Pandore.
Ouais, ça c'est le nom de l'association porte la structure yoga qui s'appelle Dévoiles à Pandore.
D'accord, super.
Et justement, là, j'ai vu à travers le stand qu'il y avait des petits tapis également. Est-ce qu'il y a du yoga qui est prévu aujourd'hui
alors,
ou peut-être
aujourd'hui,
dans les prochaines
dates ? J'ai commencé l'après-midi, en fait, tout au début de l'après-midi, parce qu'il y a eu une chasse aux œufs en tout début, là. Puis j'avais prévu en début d'après-midi, j'ai fait des petits contes indiens. Donc j'avais installé les tapis avec les coussins en parents-enfants. Puis voilà, des petits contes indiens un petit peu moraux qui vont justement dans l'esprit de la pratique du yoga, sur les impatiences, sur tout ce qui peut nous perturber, nous agiter, mais de l'aborder à travers des petites histoires un petit peu contes. Donc j'ai fait un petit temps comme ça en début d'après-midi.
Eh bien, merci beaucoup.
Excellent, merci beaucoup Philippe.
C'est moi qui vous remercie. Bon après-midi à vous aussi.
Merci.
Donald!
No!
Hopper!
No!
Encore Radio Primitive ?
Et oui, encore et toujours nous, toujours en direct de la fête. Exactement. Du FTIP. La fête du FTIP qui se poursuit donc sous le soleil. Ça y est, enfin ça a fait plaisir.
Il est arrivé, il va pouvoir nous sécher.
Et donc la petite voix que vous entendez, c'est donc celle d'Antoine, animateur au temps des cerises, track, etc. C'est bien ça, hein,
c'est ça,
etc. Ça. Et donc Antoine... est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la fête du slip et notamment de ce qui reste, parce que c'est pas terminé encore.
Non, effectivement, c'est la première édition de la fête du slip. Ce mois-ci, il en reste encore trois. Mm. La semaine prochaine, mardi et mercredi 7-8, ça se passe dans le parc Saint-Bruno, quartier Croix-Rouge, avec plutôt des activités autour de la nature, du jardinage, une bourse aux plantes le matin. Après, il y a vendredi et samedi, donc ça doit être 10 et 11. C'est dans le parc Saint-John-Perse, et là c'est plutôt sur le thème des livres. Le matin c'est une bourse aux livres avec la maison de quartier qui ramène plein de livres. Il y a des histoires qui seront racontées aux enfants dans les activités annexes. Et il y en a une autre sur le jardinage qui doit être le 24-25, c'est ce vendredi, samedi, et ce sera Esplanade Rosa Park dans le quartier Wilson.
Super, un rendez-vous donc à ne pas manquer.
Bah,
faut y aller.
Pour les aficionados de la fête du slip. Et normalement, il y aura une autre salve dans d'autres quartiers au mois de septembre. Mais du coup, okay. Le planning n'est pas encore arrêté.
Donc première édition de la fête du slip, si tout se passe bien, peut-être que l'année prochaine, on aura
l'occasion de recommencer.
J'imagine que la question qui a dû revenir énormément par rapport au choix du nom de cette fête, pourquoi ?
Eh bien, pour deux choses principalement. Nous, on est une association de cirque. Du coup, ça faisait des années que notre projet s'appelait « Viens faire le cirque ». Du coup, nous, on ne voit pas foncièrement la différence entre la fête du slip et « Viens faire le cirque ». Et on voulait le nom d'une fête imaginaire, vous voyez, comme la Saint-Glinglin ou quelque chose comme ça. Et du coup, c'est tombé sur la fête du slip. On s'est dit que ça fonctionnait bien. Et écoutez, les gens, pour l'instant, on a l'air d'avoir des retours globalement positifs.
Ça fait beaucoup rire les enfants, forcément.
Ça marche bien. Et comment... C'est impactant, comme
voilà,
on dirait.
C'est ça, exactement. Et comment on choisit, du coup, toutes ces animations, les partenaires qui sont là, qu'on a pu entendre aussi au micro de Radio Primitive, les concerts, les spectacles ?
Ouais. Alors, ça dépend. Il y a un versant des partenaires qui sont les partenaires du quartier qu'on traverse, comme vous. Vous êtes installés dans ce quartier. L'Oasis, chez qui on pouvait s'inscrire toute la semaine pour faire la chasse aux œufs. Voilà. Et donc, il y a toute une partie des partenaires qui viennent du quartier. Et il y a l'autre partie, les spectacles, le vélo. C'est des gens avec qui on travaille régulièrement, avec qui on a pu collaborer depuis des années. Par exemple... Alors, je ne sais pas si je vais prononcer ça, je ne vais même pas le prononcer, mais le groupe qui a joué cet après-midi.
J'ai exactement le même problème.
C'est avec des musiciens qui avaient un autre groupe avant qu'on a fait jouer de nombreuses fois. Deinos MC qui jouait hier, il avait fait un service civique dans notre association il y a 8 ans. Enfin voilà, donc il y a une partie des partenaires qui sont des gens avec qui on travaille de longue date et une autre partie des partenaires qui sont ceux des quartiers qu'on traverse.
Et donc là, les animations qui restent pour aujourd'hui, pour le quartier Orgeval,
là, il y a tous les ateliers cirque qui sont toujours en route. Il y a tout le parc de jeux en bois. Donc, c'est des jeux d'adresse, de lancer, de précision. Il n'y a pas trop de jeux de force. Mais voilà, c'est plutôt cérébral comme jeu sportif. Il y a la caravane sérigraphie qui continue à tourner. Il y a le château gonflable qui continue à tourner.
Qui est un véritable carton, pour le coup.
C'est notre produit d'appel.
Ah oui.
Et il y a les massages, je pense, qui se poursuivent sous la tente. Et du coup, la journée, normalement, se terminera avec un spectacle. Enfin, se terminera, c'est sûr et certain. Avec un spectacle de Georges Lecoq sur les coups de 19h.
Donc, ça, c'est un spectacle de cirque.
De cirque, de jonglage clown.
En plus, Georges, on n'aura peut-être pas l'occasion de pouvoir l'accueillir au micro de Radio Primitive, mais en tout cas, il y en a énormément qui le connaissent à Reims.
Puisque c'est souvent lui qui jongle Fontaine de la Solidarité au bout de la place d'Erlon, pour ceux qui peuvent y passer parfois.
Et donc, pour les prochaines dates, on les a rapidement évoquées. Est-ce qu'il y a un lieu pour retrouver toutes ces informations pour les gens comme moi qui
ont une très mauvaise mémoire ? Alors, je pense qu'il y a le Facebook et l'Instagram de l'association TRAC, sur lequel il y a le planning des fêtes du slip.
Voilà. Tout simplement.
Pour retrouver là.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et puis merci à vous aussi de nous avoir écoutés sur Radio Primitive. Donc c'est une émission que vous allez bien sûr pouvoir retrouver en podcast sur le site internet. Donc n'hésitez pas, radioprimitive.fr, pour pouvoir réécouter cette édition de la fête du slip. Il y aura des reportages également. Sacha, je crois que
tout à fait.
Tu es parti avec ton petit micro.
On pourra réécouter Philippe et on pourra réécouter nos amis Robert et Savi qui vont nous expliquer la sérigraphie. Voilà, plus en détail, ainsi que leur petit atelier mobile, une belle petite caravane peinte avec des belles couleurs. C'est très flashy, c'est très sympa.
Alors c'est rose, bleu, il y a un petit dessin dessus, voilà, pour essayer de vous décrire, pour ceux qui n'ont pas eu la chance peut-être de voir cette caravane. Et puis vous pourrez également entendre les enfants, puisque tout au long de cet après-midi, il y a eu de nombreux enfants qui se sont présentés, notamment avec les ateliers Radio Primitive. Ils ont fait beaucoup de dessins, les enfants, des dessins de Dino Slip. C'est comme ça que nous avons décidé de les appeler. Voilà, et avec de jolies histoires. Donc on aura aussi l'occasion sur la page Facebook, notamment de Radio Primitive, la page Instagram aussi, pourquoi pas, de vous partager quelques photos des dessins. Du coup, c'est tout un truc Inception des enfants.
Il y aura aussi quelques petits enregistrements du groupe qui est venu tout à l'heure, donc Zaroken Chiyé, il me semble que ça se prononce ainsi. Bravo. Et puis vous pourrez également entendre des enfants qui ont pris le micro et qui nous ont fait quelques compositions très sympas.
Alors il y a des talents,
voilà,
il y en a un peu moins, mais c'est aussi ça qui fait la beauté justement
c'est de la fête du slip.
Malgré tout, le soleil est revenu au moment du concert, donc ça veut dire quelque part
chaud,
que... Que tout s'est plutôt bien passé. Et ben en tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés.
Merci beaucoup.
Et puis on se retrouve à la prochaine édition de la fête du slip, ou alors peut-être une autre activité dans le quartier.
À bientôt.